mémoire de l'œuvre qui aujourd'hui nous préoccupe particulièrement, c'est-à-dire de l'œuvre, essentiellement de l'œuvre chorégraphique, mais de l'œuvre artistique aussi en général, la mémoire de la danse, c'est-à-dire comment la danse et les danseurs traitent et organisent et donnent vie à cette mémoire et donnent corps à cette mémoire. Et enfin, la mémoire des corps. Cette mémoire que nous partageons tous, que nous soyons danseurs ou non, et qui est la grande mémoire de l'humain. Alors, pour parler de la mémoire de la danse, j'aimerais d'abord citer cette phrase de Caroline Brown, qui est une des partenaires de, qui a été une des grandes partenaires de Merce Cunningham, une des plus grandes danseuses du début de la compagnie de Merce Cunningham, et même une partenaire privilégiée de la chorégraphie de Merce Cunningham, et qui a écrit sur Merce de très très beaux textes. Et Caroline Brown écrit à propos de l'acte d'écrire sur la danse, ce qu'elle est en train de faire, évidemment, parce qu'elle est c'est le début de son texte sur Merce Cunningham, et elle explique ce qu'elle cherche à rendre. Les danses, écrit Caroline Brown, les danses et la danse, c'est-à-dire l'acte de danser, uniques en leur fragilité extrême, restent toujours au-delà de l'objectif et de la plume. Le souffle, la vie de la danse, demeure immunisé contre la permanence. Cette idée d'être demeuré immunisé contre la permanence, c'est évidemment le rôle de la danse, qui est un art essentiellement de la mutation, de la transformation. Mais l'immunité contre la permanence, c'est peut-être ce qui est le sort de toute véritable œuvre d'art, qu'elle soit chorégraphique ou non. Car l'œuvre est avant tout dans le temps, quelle qu'elle soit. Tableau, statue, image, texte, musique, tout est travaillé par le temps et travaille dans le temps. C'est aussi quelque chose, ce travail du temps de l'œuvre. Vous pourrez en lire quelques très belles réflexions dessus dans Martias, dont on vient de parler dans un texte de Dominique Dupuis. Et le chapitre, enfin le paragraphe dans lequel ceci est traité s'appelle justement « Le temps de l'œuvre ». L'œuvre, bien entendu, d'habitude, on situe toujours l'œuvre d'art par rapport à sa source, par rapport à un geste initial qui lui donne naissance et qui la situe dans le monde. Mais il n'est pas sûr, justement, parce que l'œuvre est quelque chose qui n'est pas permanent, qui est immunisé contre la permanence, comme dit merveilleusement Caroline Brown, c'est aussi quelque chose qui est en devenir, qui va vers. Je dirais que l'œuvre, elle va vers son identité. Elle n'est pas, il n'y a pas une origine qui la fonde. Et c'est pourquoi une grande partie de son existence est de se trouver elle-même. Vous connaissez sans doute ce très beau vers de Mallarmé à propos d'Edgar Poe, de l'écrivain Edgar Poe, tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change. C'est-à-dire que le poète va vers lui-même. Et c'est l'éternité, c'est-à-dire le temps, et le temps qui n'est pas un temps de la fixation, une éternité de mouvance qui lui apporte son identité. Et je dirais que c'est un devenir qui est aussi lié au regard qu'on peut avoir sur l'œuvre, parce qu'une œuvre n'existe jamais pour elle-même. Une œuvre, c'est d'abord un geste vers, c'est d'abord une relation à l'autre, et une relation à l'autre qui peut prendre toutes sortes de supports. La danse, parmi tous les arts, est peut-être celle où cette relation à l'autre est le plus prise en compte, où la relation à l'autre devient la substance même de l'art chorégraphique. Et c'est Gilles Deleuze qui, dans une très très belle préface au livre de Serge Danet, le Ciné Journal, rappelle que le temps de l'œuvre est bien au-delà du temps de sa naissance. Un des problématiques du temps de l'œuvre, et ça je pense que le texte de Dominique Dupuis vous éclairerait aussi dessus, c'est justement de ne pas être toujours compatible avec celui du groupe social où l'œuvre prend naissance. Il y a toujours un temps pour le regard. Et il est quelque chose de tout à fait regrettable dans la production chorégraphique, c'est le fait que les œuvres sont quelquefois données 3-4 jours et ne perdurent pas. Or, il faudrait un temps très très grand pour que le public soit, comme dit Deleuze, enfanté par l'œuvre. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé à propos de la lecture de l'œuvre chorégraphique, c'est-à-dire que le regard du public rejoigne le temps de l'œuvre. Et Deleuze a cette très belle image, il parle du critique, et du critique d'art, et en particulier du critique de cinéma, à propos de Serge Dany, qui était le critique attitré du journal Libération pour le cinéma. Et il parle du critique comme un veilleur. Il dit « le veilleur doit garder la lampe allumée ». Et je crois que c'est très important de garder cette flamme jusqu'au moment où l'œuvre rejoindra, où le groupe social à qui s'adresse l'œuvre, où le regard à qui s'adresse l'œuvre rejoindra enfin le temps de l'œuvre. D'où la nécessité, on va en parler, de la reprise. En danse en particulier, la reprise, l'idée de reprise est quelque chose de très très important. Et nous allons évoquer peut-être à la fois cette nécessité, mais aussi la difficulté de cette reprise qui est spécifique à la danse. Alors, garder la lampe allumée, ça veut dire, évidemment, traverser le temps qui rend l'œuvre à elle-même. Et on peut voir toutes sortes d'exemples de cela dans toutes sortes de secteurs de l'art. Par exemple, je pense à un tableau très très connu de Rembrandt, la Ronde de nuit, qui est au Stedelijk d'Amsterdam. Quand Rembrandt a peint la ronde de nuit que tout le monde connaît, avec cette espèce de lumière centrale et cette espèce de nocturne, les corps qui émergent de la nuit, pour en parler à propos de la mémoire des corps, justement cette façon que les corps ont de produire leur propre lumière et d'émerger depuis le nocturne, depuis l'obscurité, et de conduire cette lumière jusqu'au regard du spectateur du tableau. Aujourd'hui, bien entendu, c'est cette lumière que nous voyons. À l'époque de Rembrandt, il y avait toutes sortes de codes que j'appellerais des codes parasitaires pour lire cette œuvre, en particulier parce que la guilde des veilleurs de nuit qui avait commandé ce tableau à Rembrandt avait exigé que soit figuré, comme dans toutes sortes de tableaux commandés par des collectivités dans la peinture hollandaise et flamande de l'époque, que soient figurées les marques, les personnages, que soient reconnaissables les grands personnages qui dirigeaient cette guilde des veilleurs de nuit, etc. Donc il y a des références qui n'ont rien à voir avec l'essence de l'art. Au fond, l'essence de l'œuvre, petit à petit, elle s'est dégagée. Et c'est aujourd'hui que nous la voyons. C'est-à-dire, c'est une œuvre de lumière et d'ombre. Cette lumière et cette ombre qui a enfin trouvé son essence. Alors, je dirais que si les éléments parasitaires, les informations parasitaires de l'œuvre s'effacent, les pressions, et les pressions sont très très importantes sur la création en danse. On peut dire que les grands chorégraphes, et j'en ai à côté de moi, qui appartiennent à des équipes ou qui sont eux-mêmes, comme Odile Duboc, qui anime la compagnie Contre-Jour, qui maintenant est le Centre National Chorégraphique de Franche-Comté. Pourquoi est-ce que ce sont de grands artistes ? C'est parce que c'est vrai que dans une grande mesure, ils échappent aux pressions. Et malgré tout, ces pressions demeurent. Et les pressions du goût du jour, je dirais. Le goût du jour est toujours donné par des normes qu'il est extrêmement difficile d'analyser, mais qui sont très très prégnantes et très oppressantes. Et ces artistes dont Dominique Bagouet faisait partie, eux-mêmes dans leur œuvre, ils savaient échapper au code du jour, certainement. Mais le regard du public, lui, est quand même extrêmement déterminé, il est conditionné, et l'artiste aussi subit des pressions. Il y a à un moment donné dans l'histoire, il y a dans l'histoire des langages artistiques, il y a presque des obligations inévitables. Il y a presque le fait qu'on est dans un. On travaille par rapport à un groupe et il faut communiquer avec ce groupe et communiquer aussi avec soi-même et avec les urgences de l'heure. Et ces urgences de l'heure, elles ne sont plus lisibles ou elles s'effacent, elles tombent. Elles tombent un peu comme des pots avec le temps, si vous voulez. Je pense aussi à une œuvre. Je pense à beaucoup de choses. Par exemple, je pense au Saut de l'ange de Dominique Bagouet, qui est une œuvre qui a semblé à sa création d'une lisibilité extraordinairement difficile. C'est vrai que cette œuvre déplace les normes de lisibilité. Donc c'est vrai que pour comprendre, pour arriver à lire cette œuvre, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui est, il y a un grand consensus maintenant sur cette œuvre, eh bien, il faut que l'œuvre ait travaillé les critères de lisibilité. Donc il y a un travail de l'œuvre qui vient en amont même de sa perception. Je dirais que dans cette façon qu'ont les peaux de tomber, parce qu'à un moment donné, les œuvres sont porteuses d'un message et que la conjoncture sociale ou politique ou économique, en quelque sorte, s'efface et libère un autre état de l'œuvre, peut-être plus central, plus important. J'y pense parce que récemment, le CNDC d'Angers a repris une pièce de Dominique Dupuis qui date de 1973, Visage de femme. Et dans les années 70, il est évident que parler du visage de la femme, à un moment où la femme conquérait toutes sortes de droits, en particulier il y avait les batailles pour l'avortement et toutes sortes de choses qui étaient importantes, il était difficile de dégager l'œuvre de la parole qui devait porter cela. Aujourd'hui, repris par les élèves du CNDC, il est évident que cette œuvre a trouvé tout à fait un autre sens. Et que ce qui apparaît derrière les voiles, puisqu'il s'agit de danseuses qui sont voilées, c'est une autre vérité des visages. Et il a fallu, je pense, tout ce temps pour que cet autre voile, le voile du sens, tombe en quelque sorte. Donc, une œuvre est dans le devenir, elle doit trouver son échelle, son temps et son être. Mais, ceci dit, pour trouver son espèce, son espace, son temps et son être, elle doit aussi rester, ne pas trahir. J'allais dire rester fidèle. Mais rester fidèle, l'idée de rester fidèle, c'est plus important l'idée de ne pas trahir. Et qu'est-ce qu'on ne trahit pas dans l'œuvre ? Eh bien, on ne trahit pas le geste profond qui l'a amené. Friedrich Nietzsche, qui est un des philosophes auxquels la danse doit le plus, pour comprendre que il y a un moment donné où ce n'est pas le sens objectif des choses qui compte, mais au contraire ce qui dans la matière même de l'être peut être découvert et porté. Nietzsche disait que ce qui compte le plus dans une œuvre littéraire, c'est le mouvement du style. Ce n'est pas le style lui-même, mais le mouvement du style, c'est-à-dire la vague qui porte les choses. Je pense que cette vague qui porte, c'est justement ce qu'il ne faut pas trahir. Alors évidemment, dans cette fidélité qui n'est pas la fidélité, qui n'est pas une reproduction exacte, tout à l'heure, et on va en reparler sans doute, Dominique Noël faisait allusion à une question qui avait été posée à Christian Boltanski à propos de la reprise du Sceau de l'Ange. Et où Christian Boltanski avait répondu sur un petit détail qui avait changé, que ça n'avait aucune importance et qu'il n'était pas question de faire des facsimilés. L'idée de ne pas reproduire. Tu peux dire de quoi il s'agissait, Dominique ?
Il s'agit de la cour, Jacques Coeur.
Oui.
Quand nous avons rendu le Sceau de l'Ange au mois de juin au Festival de Montpellier, cet été passé là, donc la pièce était remontée dans le lieu de la création. Et il se trouve que dans les années qui sont passées, là, la cour Jacques Coeur a été repeinte et que cet été, elle avait, avec le décor de Boltanski, une fois que tout a été posé, c'est-à-dire toutes les petites ampoules que Boltanski avait prévues pour cette scénographie, la cour Jacques Coeur ressemblait vraiment à un gâteau à la crème, quoi, qui n'avait plus rien à voir avec l'image que nous avions justement dans notre souvenir, c'est-à-dire des murs très... très sali, très gris, et les montants de bois sur lesquels les petites ampoules étaient posées étaient à l'époque de bois naturel, enfin je dirais presque de récupération, avec les ampoules étaient comment vous appelez la boue, des ampoules étaient en plastique vert. Enfin, bon, on avait ce souvenir là et on s'accrochait à ça, et quand on a vu le décor dans la cour Jacques Coeur où tout était rose pâle, enfin, couleur laiteuse comme ça qui unifiait tout, enfin il y avait un décalage par rapport donc aux souvenirs qu'on avait et auxquels on s'accrochait, et donc on s'en est fait toute une histoire. Et le jour où Boltanski cet été est revenu dans le lieu, on appréhendait un peu le moment où il allait découvrir ça en se disant c'est pas possible, il va trouver ça terrible. Et en fait, la première chose qu'il a dit, c'est que l'œuvre bouge et qu'elle continue à vivre et qu'il ne s'agit pas de... c'est ça, de faire des facsimilés. Et donc c'était simplement à ce propos. Et pour lui, ça a vraiment été moins qu'un détail, quoi. Donc immédiatement, toute cette montée de panique qu'il y a eu au sein de la compagnie a été balayée en 3 secondes. Et c'est très bien. Et tout d'un coup, c'est comme s'il nous avait réveillés, quoi. Il nous avait réveillés en nous disant, mais on n'y est pas du tout, quoi.
Je crois que c'est, oui, c'est important parce que c'est cette fameuse fidélité à l'essentiel qui est le propre de la, qui devrait toujours être le propre de la vie de l'œuvre, la vie n'étant pas cette permanence que dénonce Caroline Brown.